Audiolib présente Le prince de Cochinchine. Les enquêtes de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet. De Jean-François Parot. Lu par François Daubigny. À Jean-François et Anne Calcet. Avant-propos. Parfois le passé, ce pays lointain, entre en résonance dans l'ordre de l'imaginaire avec la vie réelle de l'auteur. En prologue de cette 14e enquête du commissaire des Lumières, je souhaitais m'adresser à mes lecteurs. Beaucoup d'entre eux, attentifs et perspicaces, ont relevé la présence mystérieuse d'un personnage lointain qui ne participait en rien à l'action. Ce Pierre Pignot de Behen apparaissait dès le premier roman, alors que séminariste à Paris, il s'était lié d'amitié avec Nicolas Le Floch. Tous deux partageaient le goût de la musique. Ensemble, ils assistaient au concert spirituel du Louvre et appréciaient ensuite les babas du pâtissier Störer, rue Montorgueil. Or, ce prélat, évêque d'Adran, me demeure lié par des circonstances particulières et inoubliables. J'avais dès longtemps formé le vœu de le faire revivre un jour dans un ouvrage que je n'imaginais pas alors ressortir d'une saga romanesque, historique et policière. Sans relater la vie extraordinaire de ce prêtre des missions étrangères, je rappellerai qu'il fut conduit à aider le roi de Cochinchine dans la lutte de reconquête de son royaume face aux Taizong. À la suite de défaites qui plaçaient Nguyen An, futur empereur Jialong, dans une situation désespérée, l'évêque d'Adran conseilla au souverain de faire appel à la France en vue d'obtenir une aide militaire. En 1787, le roi chargea l'évêque de se rendre en France pour négocier avec Louis XVI un traité d'alliance. La mise à disposition de l'île de Poulot-Condor et des avantages commerciaux furent proposés en échange. Enfin, pour témoigner sa confiance, le roi laissa à son envoyé le prince héritier âgé de 6 ans et le grand sceau de l'État, marquant ainsi son caractère d'ambassadeur plénipotentiaire. Il me faut évoquer les liens qui m'attachent à l'évêque d'Adran. Consul général à Ho Chi Minh-ville, Saïgon, les autorités m'informaient en 1983 de la prochaine destruction des cimetières français ainsi que celle du magnifique tombeau de l'évêque d'Adran. Étaient également menacées les tombes des officiers de marine Francis Garnier et Doudard de Lagré. Il paraissait évident que les restes de l'évêque ne seraient pas respectés. J'alertai Paris et, sans barguigner, j'entamai d'âpres négociations avec le comité populaire d'Ho Chi Minh-ville afin de récupérer les corps de Pignot de Behen et des deux prélats, Mgr Miche et Mgr Charbonnier, enterrés au XIXe siècle près de son tombeau. Je proposais de rapatrier ceux-ci en France en profitant de l'escale à Singapour, de la Jeanne et de son escorteur, le Doudard de Lagré. Aussitôt, les travaux d'exhumation commencèrent sans pourtant aboutir. Mort au siège de Quinon le 9 octobre 1799, l'évêque, premier ministre du royaume, Vauban et Carnot, d'une guerre qui s'achevait victorieusement, avait été inhumé comme un membre de la famille impériale. Embaumé, enveloppé d'étoffes de soie et placé dans une bière de bois précieux, le corps avait été porté à Saïgon. Les funérailles eurent lieu le 17 décembre 1799, date choisie par les astrologues au Jardin des Manguiers, où Pignot aimait à se reposer. La cérémonie fut grandiose, dominée par une immense croix enflammée qui illuminait cette pompe nocturne. 12 000 hommes, artillerie en tête, escortaient le cercueil recouvert de damas rouges. Une centaine d'éléphants suivaient, puis la cour, les ministres et les femmes de la famille impériale. Le défilé dura 7 heures. L'empereur Jialong prononça l'éloge funèbre du plus illustre étranger qui parut en Cochinchine, cet ami accompli dont le cheval marchait sur la même ligne que le sien. En 1800, il fit élever un magnifique pagodon au-dessus de la tombe de l'évêque. Les travaux d'exhumation se prolongeaient, or le temps pressait. J'avais obtenu de notre ministre de la Défense